tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non.
Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Ne pas savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.
Science-Friction. Science-Friction, une émission d'Alain Vattier et de Jean Ibanez sur Divergence FM.
Bonsoir tout le monde.
Eh bien, bonsoir Alain, bonsoir à vous. Donc, nous partons sur une nouvelle émission, cette fois-ci, pas plus sur un film ou une série, mais sur une bande dessinée. Qui s'appelle...
La Terre des Fils, de J.P.
Alors, Alain, qui est ce J.P.?
J.P., de son vrai nom, Gian Alfonso Passinotti, est un auteur italien qui est né le 12 décembre 63 à Pise.
63, oui. D'accord.
Oui, et il a commencé par faire de la publicité avant de se lancer vraiment dans le dessin en 94, où il publie ses premiers strips dans des revues comme Cuore, Clandestino, Boxer, enfin quelques autres, qui sont des revues célèbres en Italie. Et c'est en 2003 qu'il publie son premier album, chez Coconino Press. C'est un recueil de nouvelles qui sera un peu remarqué.
40 ans.
Ouais, 2003, ouais, tout à fait.
D'accord.
Ouais. Et c'est avec donc Note pour une histoire de guerre qu'il va se faire connaître en France, en tout cas en 2005. Hein. Album qui d'ailleurs aura le prix à Angoulême du meilleur album en 2006.
Déjà un talent d'entrée de jeu.
Oui, hein. Tout à fait.
Alors, c'est une émission de science-fiction. C'est donc un livre qui relève de la science-fiction.
Oui,
Qu'est-ce que ça raconte, Alain?
Ah, ben là, ce que ça raconte, c'est pour l'instant... c'est un récit plutôt peut-être d'anticipation, qui est un genre à part peut-être de la science-fiction. Ça se passe dans un futur assez proche. Hein. C'est un récit post-apocalyptique, puisque ça se passe après une catastrophe dont on ne saura absolument rien, d'ailleurs, ce qui n'a strictement aucune importance. Et c'est l'histoire, en fait, d'un père et de ses deux fils qui survivent sur une lagune, enfin sur un lac, hein, sur une maison lacustre. Et le père pense que pour que ses fils puissent vivre dans ce monde sans pitié, il faut qu'ils soient traités à la dure. Quoi. Il ne faut pas faire montre de sentiments, vraiment.
Pas de douceur.
Pas de douceur, oui, pas de douceur. Il y a des mots qui sont interdits, comme le mot amour, etc. Ils n'ont pas le droit de prononcer ce genre de mots. Et mais le père tient aussi un journal quotidien, etc., qui fascine les deux fils, enfin surtout, hein, d'ailleurs, surtout le cadet, qui est fasciné par ce cahier. Il se demande bien ce que peut écrire le père, d'autant plus qu'eux, ils n'ont jamais appris à lire. Hein, le père ne leur a jamais appris, c'est pour ça que dans ce monde-là, ça ne leur servira à rien. Et un jour, le père meurt, et les gamins se retrouvent avec ce cahier, Lino, donc le cadet, aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ce carnet. Donc, il décide de partir à l'aventure, à la recherche de quelqu'un qui saurait lire, pour qu'on leur dise ce qu'il y a.
Qu'est-ce qui
est écrit dans le journal que tenait le père.
En fait, entre autres, mais on va en reparler, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que pouvait dire, qu'est-ce que pouvait penser, en fait, le père sur eux.
C'est ça. Enfin, la question que se pose Lino, c'est surtout celle-là. Qu'est-ce que mon père pense de moi? Oui, tout à fait. Surtout que Lino, c'est un gamin, effectivement, pas facile, c'est un peu un teigneux, il peut être violent, enfin, c'est pas un gamin facile, on va dire, mais c'est un gamin attachant aussi.
Ouais. En fait, c'est la question de tous les enfants, c'est... Est-ce que mon père m'aime, mes parents m'aiment?
C'est ça.
C'est terrible comme question, parce que c'est à la fois pathétique, hein, parce que forcément, mais en même temps, c'est une question qui est toujours présente, et tout particulièrement quand il y a plusieurs fils, et quand il y a plusieurs enfants.
Voilà, il y en a deux, mais surtout encore plus... La question est redoublée du fait de l'attitude du père par rapport à ses fils, qui ne veut montrer aucun affect par rapport à ses fils.
Oui, il veut absolument pas qu'il pense que... En tout cas, il veut les endurcir.
C'est ça.
Et en voulant les endurcir, il ne leur montre
aucune affection.
Aucune affection. C'est, comment on pourrait dire, c'est une manière un peu contradictoire d'élever ses enfants pour que, si jamais tu veux, que tes enfants, ils t'aiment.
Ouais, c'est sûr.
Voilà. Forcément, les enfants...
Mais lui, il pense que dans ce monde-là, c'est ce qu'il dit à la sorcière, un personnage qui apparaît dans l'histoire, que l'amour dans ce monde-là ne sert à rien. Il faut qu'il soit dur, il faut qu'il soit invincible. Et que pour être invincible, il faut qu'il soit débarrassé de ce genre de sentiments.
Et en même temps, on voit l'attachement pour ce cahier montre en quelque sorte le contraire.
Tout à fait. Surtout quand on saura à la fin ce qui est dit, effectivement, que, comme il dit, Lino est peut-être un casse-couille, mais qu'il l'aime vraiment infiniment. Quoi.
Ouais. Ce cahier était en quelque sorte une mémoire. Une mémoire, on pourrait dire, qui est une espèce d'héritage.
C'est le seul héritage, d'ailleurs. C'est le seul, puisque le père, par exemple, ne leur parle jamais du passé. Ils ne savent absolument, les gamins ne savent absolument pas ce qui s'est passé, le monde qu'il y avait avant. D'ailleurs, même à un moment dans l'album, ils découvrent des photos, et ces photos ne leur parlent absolument pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils voient un chien sur un canapé, une espèce de grande ville, et ces photos ne leur disent rien, et ils les jettent. Quoi. Ils les jettent dans le lac, parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Il n'y a aucune nostalgie chez ces gamins. Alors, contrairement au père, sans doute, on s'en aperçoit, et la sorcière dont on parlait tout à l'heure, qui eux ont cette mémoire de ce monde, qui en ont la nostalgie, mais qui ne, le père lui refuse de transmettre cette nostalgie à ses enfants.
Alors, en effet, on va revenir sur ça, parce qu'à mon avis, c'est là, entre autres, tout l'intérêt, hein, de ce que recherche JP, dans cette volonté, en quelque sorte, d'éradiquer le passé, de faire une espèce de table rase que permet en quelque sorte l'idée de la catastrophe. Mmh. Il y a une catastrophe qui s'est produite, le passé est réduit à néant, et ils vont être obligés en quelque sorte de se construire ou de se reconstruire à partir de choses qui sont
élémentaires,
pulsionnelles, voilà.
Élémentaires, voilà. Et puis aussi, quand on parle d'élémentaires, c'est aussi les éléments, l'eau, la terre, enfin ce genre d'éléments, et la nature, enfin les animaux... Il y a un rapport un peu premier au concret, enfin aux choses, aux êtres.
Oui, en effet, on est là dans une bande dessinée qui est quand même très 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 matérialiste.
Tout à fait, oui. Hein.
Avec
si on y croise une secte un peu idiote, là, la secte du dieu trop cool,
oui.
c'est une secte qui... Enfin, c'est pour les personnages principaux, oui, ce qui est important, c'est effectivement le concret.
Alors, ce dont il faut parler quand même, Alain, ce qui fait quand même aussi l'attrait, la beauté, c'est l'esthétique.
Oui, très très beau dessin de JP, qui est pourtant un dessin assez brut, assez jeté, qui peut parfois paraître maladroit, mais qui en fait cadre parfaitement avec le récit. C'est l'espèce de brutalité du trait et de vivacité aussi, qui est très ironique. En adéquation avec ce qui se raconte quand même.
Il n'y a pas de volonté en quelque sorte. Après, on en a parlé, mais avant de venir pour l'émission, mais il n'y a pas de volonté de séduire en fait.
Non, il ne fait pas de beaux paysages, des belles aquarelles ou des dessins soignés. Mais pourtant, il y a quand même une esthétique vraiment forte qui se dégage de ce travail, quoi. Et même si on ne peut pas dire que c'est beau au sens classique du terme, il y a quand même des images de la lagune ou des images de la nuit ou des nuages, etc., qui sont quand même assez magnifiques.
Ouais.
Et pourtant, qui sont en fait avec une espèce de nervosité et de violence qui permettent quelque chose... On a quelque chose à la fois compact, un peu menaçant et de vivant, quoi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que, voilà, on est post-catastrophe. Il y a eu la catastrophe. On est dans un monde qui est abîmé, des personnages qui sont abîmés, des dessins qui...
une langue qui est abîmée
une
aussi.
Une langue qui est abîmée aussi, ouais. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que tout ça est, raconté, mis en scène, avec une très grande cohérence, et aussi avec une dimension émotionnelle qui fait que JP réussit à rendre chaque chose intéressante.
Mm-hmm. Hein?
Tout devient en quelque sorte intéressant parce que ce n'est pas séduisant, ce n'est pas immédiatement beau, etc. Et ça va avoir un relief qui est assez étonnant. C'est ça, à mon avis, qui fait, entre autres, la grande beauté de cet album. Je dois dire que c'est un des plus beaux albums. Alors, après, toi, c'est ton monde, hein, la bande dessinée. Un de tes mondes, en tout cas. Mais c'est vrai que, par exemple, on pourrait penser au travail que fait quelqu'un comme Brescia, par exemple. Ah ouais. Bradshaw, il fait des dessins qui, dans un premier temps, sont comment on pourrait dire, pas forcément séduisants.
Tout à fait, hein, oui.
Mais avec un univers qui est, on le voit, qui est très personnel, très singulier, mm-hmm. et qui fait que progressivement, on est complètement fasciné.
Mm-hmm. Oui, mais c'est un tout autre travail chez Bradshaw. Il y a un travail vraiment plastique plus que graphique, puisqu'il utilisait des techniques comme les papiers découpés, les frottages, les grattages, enfin tout ce genre de choses, les papiers déchirés. C'est vraiment un travail sur la matière chez
Bradshaw.
Ouais. Alors que chez JP, c'est vraiment un travail sur le trait.
Ouais.
C'est vraiment très très différent.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est par rapport au travail du JP, c'est que c'est à la fois, il y a un souci sur les paysages,
ouais.
sur les portraits,
mm-hmm.
mais en même temps, on est là, encore une fois, sur quelque chose qui n'est pas rassurant,
mm-hmm.
qui n'est pas en quelque sorte tout lisse.
Non, c'est tout est un peu menaçant, tout est un peu sombre, effectivement, il n'y a pas de beaux paysages splendides et magnifiques qui transcendraient ou qui surplomberaient la vie des humains. Apparemment, le paysage est un peu au même niveau que l'existence que mènent les deux fils et les autres personnages qu'on croisera dans l'histoire.
En fait, cette volonté là, de ne pas vouloir faire quelque chose qui soit beau, qui soit séduisant, etc., permet en fait à JP de mettre l'accent sur les éléments. Sur les, voilà, sur le, tu le disais tout à l'heure, l'eau, la pluie, la terre, il va représenter voilà les herbes, les etc etc et c'est fait d'une telle manière que chaque élément va être comme animé.
Ouais.
on est là comme dans un monde qui serait détruit, anéanti, et en fait tous les éléments, chaque image va acquérir par la même une espèce de puissance, une espèce d'animisme.
Il y a encore quelque chose qui vit dedans.
Voilà.
Oui, c'est une terre, comme tu disais, c'est une terre abîmée, une terre esquintée, mais il y a encore quelque chose qui vit, qui pousse. Enfin, il y a encore quelque chose de l'ordre du vivant, même dans un monde qui a l'air complètement mort, quoi.
Alors moi, ça me fait penser un petit peu, alors tu vas trouver ça peut-être délirant, hein, mais ça me fait penser un peu à Fight Club. T'as pas vu Fight Club? Ah bon, alors c'est embêtant. À un moment donné, dans Fight Club, il y a le personnage central qui... Alors, ils organisent des combats dans ce...
Oui, je connais l'histoire. Hein,
tu connais l'histoire. Ils organisent des combats et il y a le personnage central. Il s'en prend un jeune qui est plutôt beau garçon et il lui pète la gueule. Il l'abîme physiquement. Et tout d'un coup, il se retourne. Il est là comme dans une espèce de furie. Et il dit « Je voulais casser du beau ». Et en fait, cet homme-là veut se libérer en fait, de toutes des normes, des conventions, des crédits. Il veut détruire tout ce qui, dans la société, nous embrigade, nous emprisonne dans des codes et dans des conventions.
Les représentations.
Et en fait, ils veulent libérer, en quelque sorte, voilà, l'énergie vitale et sortir de tout ce qui, en fait, empêche les hommes. Et ce que, entre autres, dit, si je ne me trompe pas, Brad Pitt dans le film, hein, qu'on fait un travail dans notre monde, on fait un travail qui ne nous intéresse pas pour s'acheter des choses qui sont inutiles. Et en fait, si on se libérait de tout ça en quelque sorte, on parviendrait à retrouver une énergie, une vitalité qu'on a perdue.
Mm-hmm.
Et moi, j'ai l'impression, quand je lis voilà, la Terre des Fils de JP, j'ai l'impression que grâce à cette espèce de
table rase,
il permet voilà, à ces personnages d'acquérir, de laisser surgir leur vitalité.
Ouais, le vivant, en tout cas.
Ouais.
Ouais, oui.
On est quasiment dans cette recherche quasiment d'Hitchène, hein, de vouloir l'affirmation de soi et puis de retrouver une vitalité perdue.
Mm-hmm.
Avec, voilà, encore une fois, cette table rase, cette image de catastrophe qui nous empêche en quelque sorte de nous réfugier dans des images qui sont toutes faites.
Oui, ben, d'autant plus pour les fils qui n'en savent strictement rien de ce qu'il y avait avant. Ils n'ont aucune idée de ce qu'il y avait sur la table. Eux, ils sont après que la table est rase et voilà, il faut qu'ils fassent avec, quoi. Ils n'ont aucune mémoire et leur père ne leur a rien dit, ne leur a donné en héritage absolument rien de ce qui correspondrait à ce monde qui est mort.
Midway, and he comes in the hole.
Vous êtes sur Divergence FM 93.9 et vous écoutez Science Friction, une émission sur la science-fiction. Alors Alain, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
Un morceau de Tom Waits qui s'appelle Earth Dies Screaming, la Terre meurt en hurlant, enfin est morte en hurlant.
Alors c'est un morceau qui est particulièrement bien choisi je trouve.
Oui, par rapport à l'histoire.
Par rapport à ce que nous sommes en train de raconter, on parle, pour nos auditeurs qui prennent l'antenne, on parle donc sur un album de JP, un dessinateur italien. Qui donc a fait cet album qui a pour titre
La Terre des Fils.
La Terre des Fils, un magnifique album, c'est sûrement un des plus beaux albums qu'on ait eu sous les yeux ou entre les mains, je ne sais pas ce qu'il faut dire.
Hein. Les deux.
Peut-être les deux. Hein. Alors, Alain, on est là, dans un monde que décrit JP, qui est un monde post-apocalyptique, il y a une catastrophe, et on a répété à plusieurs reprises qu'il y avait une destruction, un anéantissement du passé, mais malgré tout, il y a quand même quelques petits éléments, des petites choses du passé.
Oui, dans la communauté donc des fidèles, là, par exemple, ils adorent un dieu qu'ils appellent le dieu trop cool. Le dieu trop cool, ça s'écrit T-R-O-K-2-O-L, mais ça renvoie bien à l'expression « c'est trop cool ». D'ailleurs, ils utilisent aussi ce nom-là dans le genre d'expression de cet ordre. Hein. Et leur monnaie, par exemple, c'est le « like hein, ». Le « like », comme quand on va sur Facebook ou sur Instagram pour « liker » les postes, donc c'est des traces donc d'une époque qui a disparu. Donc,
c'est un petit clin d'œil aux ados là quand même, non
ça,
ouais. Hein, aux éternels ados.
En tous les cas, la génération qui a précédé la catastrophe,
oui.
Ça c'est sûr.
Voilà. Donc il reste des petits éléments comme aussi sur un t-shirt.
Oui, un t-shirt effectivement d'un des fidèles. Là,
de la secte.
Hôtel California.
Hôtel
oui.
California, non là, oui. Alors, c'est une espèce de secte aussi quand même. Hein.
C'est carrément une secte.
Oui. Hotel California, c'est un tube indémodable.
Ouais, hein. Oui, enfin, j'ai jamais aimé ce morceau. Mais...
Oui, je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout...
On l'entendait partout à l'époque.
On l'entendait et on continue à l'entendre.
Oui, tout à fait.
Donc tu as des couples qui se rencontrent sur Hotel California. Mais si, il faut être un peu romantique, un peu sentimental. En tout cas, c'est ce qu'on n'est pas du tout JP, romantique et sentimental dans cet album, qui est particulièrement, comment on pourrait dire, brut. Qui est à la fois dur, à la fois, comment on pourrait dire... on l'a dit avec ce caractère jeté.
Oui, le dessin, oui,
du dessin
jeté, dynamique.
Voilà, on est là dans quelque chose qui est tout à fait hors la mélancolie, la nostalgie. Le passé, c'est fini. On est dans un présent, mais un présent qui
c'est la terre des fils, justement. Ouais. C'est pas héritage
la terre
des pères.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas d'héritage. C'est la terre des fils, c'est la terre de l'avenir, quoi.
Ouais. Et en fait,
coupé du passé, d'ailleurs.
Voilà. On est dans ce présent et dans un présent dans lequel ce qui se joue, ce qui est important, c'est la capacité que les êtres peuvent pour survivre, hein, leur capacité en quelque sorte de
résilience, comme on dit
maintenant. De se reconstruire, puis d'affirmer des choses.
Tout à fait.
Il y a cette idée aussi quand même malgré tout que la mémoire est un poids et que ses fils ils ont été d'une certaine
protégés du
poids que représente la mémoire.
Le passé, oui. Tout à fait. Le père les a complètement laissé dans l'ignorance du monde d'avant, oui.
Alors, je te disais avant donc notre prise d'antenne, c'est que cet album de JP me faisait penser, alors peut-être que ça peut être étonnant pour ceux qui aiment ce cinéaste et ce dessinateur, ça me faisait penser donc au cinéaste russe Andrei Tarkovsky, parce que chez Tarkovsky, ce souci de la matière, ce souci des espaces qui sont des non-lieux,
des éléments aussi,
des éléments, etc. Mm-hmm. Hein, avec aussi des temps de suspens, des temps qui ne sont pas remplis. Mm-hmm. Hein, y a une volonté, on le voit ici là, dans l'album de JP, de laisser des cases vides, cases qui sont très peu remplies.
Oui, très peu, hein,
avec peut-être des fois trois oiseaux au fond,
dans
le ciel, ou trois tâches.
Qu'on identifie comme des oiseaux.
Oui, qu'on pense, on s'imagine que c'est des oiseaux. Et d'autre part, c'est entre autres ça aussi qui me fait penser à Tarkovsky, c'est l'idée d'une quête.
Mm-hmm. Hein.
En fait,
oui, stalker, quoi.
Voilà, stalker ou encore Andrei Rublev, le moine. Ouais. Hein, il va rechercher quelque chose qui est perdu. Hein, et il doit lui aussi survivre dans ce monde qui est extrêmement violent.
Violent, oui, hein, tout à fait.
Donc en fait, qu'est-ce qu'il recherche, hein? Qu'est-ce qu'il recherche, ses fils? C'est quoi l'objet de cette quête?
Enfin, c'est surtout la quête de Lino, d'ailleurs, hein, parce que Santo, lui, apparemment, le cahier, ça le perturbe pas trop. C'est Lino qui est obsédé par c'est le cadet, d'ailleurs, Lino, oui. Et puis on apprend aussi que quand il est né, sa mère est morte, alors il se sent plus ou moins responsable de la mort de sa mère. Et Lino, ce que veut savoir Lino, c'est ce que son père pensait de lui, c'est vraiment son obsession, quoi. Donc il faut à tout prix quelqu'un qui saurait déchiffrer et lire ce cahier, pour avoir la confirmation ou l'infirmation de l'amour de son père pour lui. C'est vraiment son objectif. Et à partir du moment où Lino comprendra que son père, en fait, l'aimait beaucoup, même si c'était un casse-couille, comme il dit dans il deviendra, en fait, quelqu'un. Il deviendra vraiment un sujet. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il sera nommé. Parce que tout le long du récit, on ne connaît pas le nom ni de Lino ni de Santo. C'était qu'à la fin, c'est qu'à partir du moment où il comprend... juste avant, qu'il est nommé. Hein. C'est qu'à partir de ce moment-là qu'il devient un sujet.
Ils deviennent qui ils sont, en fait.
Qui ils sont, oui, hein, tout à fait.
Et donc, en fait, on pourrait se tromper. C'est pas la quête du sens. Parce qu'en fait, le cahier lui-même, au bout du compte...
Il s'en fout, finalement.
Il s'en fout.
À partir du moment où effectivement, il est confirmé, que l'amour de son père lui est confirmé, le cahier, il s'en débarrasse. Il le jette, et ça lui permet d'ailleurs de sauver la sorcière. En plus, quoi. Enfin, c'est...
Oui,
il le jette aux fidèles, quoi, en pâture aux fidèles, en leur disant que c'est le texte où sont écrites toutes les lois du dieu Trotroul, elles sont dans ce texte-là.
Oui, et en fait, ce qui est important, c'est pas ce qui est écrit, Hein, c'est ça qui est intéressant, parce que quand même, ce cahier, il est là pour, comment on pourrait dire, c'est une espèce de critique ou de rupture par rapport au monde du livre ou au monde de l'écrit. Hein. Tout d'un coup, en se délivrant de cette mémoire, de cette mémoire perdue, fantasmée, en fait, il va pouvoir ouvrir un nouvel espace, un nouvel espace-temps, un nouvel horizon.
Un devenir.
Un devenir.
Oui, tout à fait, oui.
Alors, il y a dans cette bande dessinée, il y a ce personnage de la sorcière.
Oui.
Qu'est-ce qu'il représente, en fait ?
La sorcière, ben, je pense que ça représente tout ce que veut nier le père, à savoir la tendresse, l'amour, la féminité, etc. Et d'ailleurs,
l'énergie aussi.
La vie, oui, le vivant, oui, oui. Vivant. Enfin, vraiment, tout à fait, oui. Et pour Lino, ce que ça va représenter finalement, c'est l'image de sa mère. À la fin, quand il demande à son frère, parce que son frère ne se souvient que d'un détail de sa mère, c'est la chevelure. Santo, se souvient, oui. Se souvient que de ça. Et à la fin, Lino lui dit, mais elle était comment la chevelure de ma mère, abondante, brune? Et l'autre ne répond pas, mais lui, il fait la réponse, il identifie cette chevelure à celle de la sorcière. Ouais. Donc il va aller délivrer la sorcière, alors qu'ils sont en train de fuir devant les fidèles. Et donc, la dernière image, c'est aussi l'image d'une caresse.
Oui.
Donc, ça représente effectivement donc la tendresse et l'amour. Et Lino est très troublé par cette caresse.
Oui, parce qu'il n'a pas été éduqué.
Avec ça, oui, tout à fait.
Donc, il ne sait pas en fait quoi en faire.
Oui, mais en même temps, on sent qu'il y a, il en est en quelque sorte ravi. Il est étonné, mais en même temps, c'est pour lui un moment intense de bonheur.
Et donc, en quelque sorte, cette sorcière, elle est une sorcière parce qu'elle est capable de...
C'est une guérisseuse aussi.
Oui, voilà.
Oui, hein? Oui, tout à fait.
Il y a une dimension chamanique.
Tout à fait, oui.
Elle est porteuse de vie, elle est capable de guérir, en fait, Lino, de le libérer, en tout cas.
Oui, tout à fait, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va la chercher hein, au dernier moment, alors qu'ils sont en train de s'enfuir. Il se rend compte que la sorcière est un élément essentiel dans son histoire.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que c'est un album quand même qui est très dur, il y a de la violence, c'est très, les traits déjà sont violents, les personnages sont abîmés, etc. Et puis quand même, tout d'un coup, à la fin...
Il y a ce geste.
Ce geste.
Oui, ce geste de tendresse. Ouais.
De la douceur. Mmh. Un peu de douceur.
Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Dans ce monde de brutes.
À tout moment, il y a près de 1500 extraterrestres sur notre planète, presque tous ici, à Manhattan. Ils sont presque tous convenables, ils ne cherchent qu'à se faire un peu de blé.
Maintenant, David Vincent sait que les envahisseurs sont là.
Avez-vous déjà mis hors service un humain par erreur?
Non. Vous savez ce qui fait le plus peur dans la vie? Ne pas savoir votre place dans ce monde. Savoir pourquoi vous êtes ici.
Je sais pas ce que c'est, mais ça nous suit. Et je sais que c'est pas un homme.
Oui, nous sommes ici en présence d'un organisme qui imite, qui reproduit toutes les formes de vie et qui plus est, les imite à la perfection.